Bon, Ray est avec nous ce matin. Tu veux parler de sport féminin?
Oui, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, Paul. Puis on est dans une saison complètement bouleversée dans le sport. Puis je trouvais que le bon exemple pour commencer, ça serait la WNBA. La WNBA, ça veut dire Women's National Basketball Association, évidemment. C'est dans la même famille que la NBA. Puis ça a été fondé en 97. J'étais avec la NBA lorsqu'on a fondé cette ligue-là. Puis aujourd'hui, imagine, elle est rendue à sa 24e saison. Puis je veux pas trop comparer avec le hockey féminin. On peut en reparler prochainement. Ça va venir naturellement comme question au Québec, là. Mais c'était David Stern qui avait eu une idée de donner l'espace requis au basketball féminin. Connaissant la popularité au niveau universitaire, sachant qu'il y a plein de filles qui sortaient des rangs universitaires américains et canadiens, puis qu'il n'y avait pas de place à jouer professionnel. Il fallait tous qu'elle aille en Europe, parce qu'en Europe, il y avait du basketball professionnel de différents niveaux de qualité. Fait que lui, Stern, y a cru le premier jour, puis il a forcé les investisseurs, gouverneurs de la NBA, à supporter la Ligue. Donc finalement, ce que ça prend toujours, c'est de l'argent. Puis la première comme ça, c'était Val Ackerman. C'est une avocate qui travaillait pour David Stern. Elle jouait au basketball avant aussi. Puis ensuite de ça, est allée devenir commissaire d'une grosse conférence de la NCAA qui s'appelle la Big East. Puis la raison pourquoi je pense que c'est important d'en parler, c'est que c'est important de réveiller les sens des gens sur l'importance de soutenir le sport au féminin. C'est pas le même niveau de compétition, bien entendu. C'est pas des filles qui sont aussi spectaculaires puis qui dunkent le ballon et ainsi de suite. Faut pas s'attendre à ça. Mais si vous regardez les matchs qui sont diffusés actuellement, là, TSN en diffuse, ESPN puis ABC aux États-Unis, bien sûr, sont en milieu d'une saison d'été, dans une bulle, à Bradenton, en Floride. C'est le complexe qu'on appelle IMG Academy. Puis les filles jouent là leur saison au complet, 22 matchs. J'ai regardé des matchs en fin de semaine. J'ai suivi leur petite campagne marketing qui se déroule au réseau américain. Puis honnêtement, c'est cool. Honnêtement, la qualité de jeu ne m'étonne pas, là, mais il faut le découvrir. Puis je pense que c'est important qu'on comprenne d'où ça vient. Il y avait 8 clubs au début, en 97, puis il y en a 12 aujourd'hui. Puis Paul et Alain, imaginez là, que 24 ans plus tard, ils ont perdu de l'argent 24 ans. Chaque année. Mais fait que c'est pas quelque chose qui est lucratif.
Mais j'allais te poser la question. Le sport féminin, là, on parle de basket, mais on peut penser au tennis, n'importe par exemple.
Le hockey. On aimerait que la Ligue nationale s'implique au niveau du hockey féminin.
Je comprends que c'est pas le même niveau de jeu, mais j'imagine qu'on fait des sondages. Est-ce qu'il y a un intérêt ou c'est encore hyper marginal? Tu dis qu'au basket, on perd de l'argent année après année.
Oui. Bon, alors, évidemment, la NBA a les poches profondes, peut payer ça, puis absorber ces frais-là. Mais je te donne quelques chiffres. Il y a à peu près 250 000 personnes aux États-Unis qui regardent chacun des matchs à la télé américaine. Alors, tu vas me dire 250 000 sur 340 millions, c'est pas tellement, mais c'est quand même correct pour ABC puis ESPN qui veulent investir dedans. Deuxièmement, il y a un salaire minimum, Paul, Alain, là, qui va vous faire tomber en bas de votre chaise, là. Salaire moyen, 130 000. Puis la raison pourquoi je le souligne, c'est parce qu'au hockey féminin, lorsque la Ligue canadienne a fermé ses portes l'an dernier, les filles gagnaient entre 2 000 et 10 000. Fait que là, il y a un problème là, de ce côté-là. Au Canada, on n'avait pas l'investissement. Mais je ne veux pas m'attarder à ça tout de suite. Il y avait quand même des foules de 11 000 personnes, Paul, lors des premières saisons de la WNBA, en moyenne. Puis aujourd'hui, c'est autour de 7 000. Fait que ça tient la route. Ça joue dans des amphithéâtres NCAA ou NBA. Puis il y a une population dans la communauté qui est intéressée à ça. Mais c'est sûr que quand on compare, surtout avec les médias sociaux, à l'immense popularité des grands sports américains, bien, c'est marginal, puis ça n'a pas sa place. Mais il faut le regarder sur l'ensemble. Des filles qui aiment le basketball, qui aiment la WNBA, vont éventuellement aimer la NBA. Puis c'est pour ça que la NBA a compris tôt qu'il fallait investir chez les femmes, puis leur donner une chance de poursuivre leur carrière, puis de les habiller comme les joueurs de la NBA, puis leur donner le même encadrement, si on veut. Ça fait en sorte que ces filles-là se développent eux aussi des médias sociaux, un following, des gens qui les suivent, qui les aiment. Puis à la fin, ça monte en haut de la pyramide jusqu'à la NBA.
Est-ce que la Ligue nationale de hockey devrait faire la même chose avec le hockey féminin?
C'est certain que le problème du hockey féminin, c'est un problème de manque de ressources. Puis qui a les ressources dans le hockey? La Ligue nationale de hockey, bien sûr. Imaginez si 31 propriétaires de la Ligue nationale de hockey décidaient de signer chacun un chèque, là, de dire, regarde, on va tous être généreux, l'important, c'est de relancer le hockey féminin, puis on va mettre $1 million chacun. C'est pas beaucoup pour eux, $1 million, dans l'ensemble de l'œuvre, mais ça donnerait une injection de 31 millions en capital pour cette Ligue-là pour se partir. connaissant le succès du hockey olympique féminin, on l'a déjà vu de nos yeux, Canada-US, c'est intense, c'est très bon, c'est ça qu'on voudrait tenter de répéter. Fait que je me fais le porte-parole aujourd'hui pour rappeler aux gens l'importance d'encadrer le sport féminin, d'encourager la commandite féminine et de penser, imaginez le nombre de joueurs canadiens qui jouent dans la NBA, comment il y aurait de joueuses canadiennes qui pourraient évoluer dans la WNBA.
Mais exemple, il y a une différence de bourse entre le tennis masculin et le tennis féminin. Et
Pas dans les grands chelems.
Non, mais dans les autres tournois, oui.
Oui, dans les autres tournois.
Et Jeanne Lapierre disait, la raison, c'est que l'écoute est moins forte.
C'est certain. C'est certain que si on y va de façon pure et dure...
Économiquement parlant, là, ouais. Ça attire moins, donc on paye moins.
Oui, puis c'est un peu... En plus, Paul, je te dirais, encore une fois, là, j'y vais avec toute délicatesse, mais le tennis féminin joue des 3-7, meilleur de 3. Les hommes jouent des meilleurs de 5 qui peuvent durer jusqu'à 5 heures quand Nadal et Djokovic se tapent une finale de Grand Chelem. Mm. Alors, les gars travaillent beaucoup plus. Alors, mais c'est vrai, ça, ce que tu dis, c'est que évidemment, il y a plus d'intérêt quand on a toujours le meilleur produit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place dans notre temps, dans notre agenda, puis dans la consommation grand niveau pour du sport de haut niveau élite féminin.
Parce que malgré ça, le tennis féminin est probablement le sport féminin le plus populaire. Si on compare, par exemple, à la LPGA au golf, le tennis féminin est beaucoup plus populaire. Là.
C'est une bonne observation, Alain. D'ailleurs, parmi toutes les plus grandes athlètes dans le monde entier, au niveau financier et richesse, les meilleurs sont toujours des joueuses de tennis féminin. En commençant par Serena Williams, bien sûr. Ils ont toujours eu plus d'argent, plus de diffusion, plus de médiatisation que les filles de la LPGA, malheureusement. Puis au Canada, on a Brooke Henderson, qui est une championne incontestée de golf. Probablement la meilleure golfeur de l'histoire du pays. Puis elle joue dans la LPGA, puis on n'en parle jamais.
Merci. Bonne journée, Ray. À demain.
À demain.
8h30.